Parce que dès qu'on entretient dans son cœur et son esprit une haine, un mépris, un rejet inavoué contre un autre, ça peut se transformer peu à peu en destruction ou en fureur contre soi. Et c'est courant de voir que bien des gens qui pourraient être convenables, avoir la paix autour d'eux, se mettent à haïr leur propre vie, à se prendre en quelque sorte en grippe eux-mêmes, au lieu de retourner leur agressivité contre celui qui en est la cause. Et des gens qui, en fait, à cause des circonstances de leur vie, auraient le goût de serrer le cou d'un autre puis d'en faire un meurtre, spirituellement parlant, là, tellement ils trouvent l'autre détestable, et comme ils ne le font pas d'aucune manière et que cette agressivité reste en eux, ils s'étouffent eux-mêmes et se suicident psychologiquement et spirituellement. Et cette personne-là qui était devant eux ou devant elle, qui les a provoqués, si c'est une personne qui se dit croyante, chrétienne, qui va en messe tous les jours, eux autres, là, suicident, détruisent leur propre vie spirituelle par réaction contre qu'ils subissent de la part de l'autre personne. Et vous voyez souvent des gens qui vont dire, oh, moi, en tout cas, ma vie là, spirituelle, ça a changé quand j'avais un oncle prêtre, une sœur, une tante, une cousine, ou mon père, ma mère, c'était toi, mais ça parlait du bon Dieu. Ben, moi, j'ai tout planté ça là. Pourquoi t'as planté ça là? Ben, c'est parce que les autres parlaient rien du bon Dieu, puis t'as partout, puis ils se disaient des chrétiens. Ils étaient assez injustes vis-à-vis de moi. Ils ont dit des choses que j'ai jamais pardonnées, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais été capables de dire à leurs parents, à leur tante, à leur oncle, qui était fautif. Alors, ils ont payé eux-mêmes la facture, puis ont pris sur eux de se détruire. Une réaction faible au dehors est souvent compensée par une réaction forte au dedans, et laquelle finit par bloquer l'amour pour l'autre. Le refoulement en chaîne et la liquidation ou la libération spirituelle affranchie. On dit couramment que il y a quatre phases dans le langage. La phase de l'enfant qui ne réussit pas à s'exprimer comme il veut, d'individu à individu, et va finir par aller parler en arrière, à distance, en groupe. Il y a la phase de l'adolescent qui se contente, lui, de s'exprimer. Il y a son franc-parler. Rendu à 13, 14, 15, 16 ans, là, il sait tout, il affirme tout, il brave tout, il enfonce tout, il règle tout. Par conséquent, c'est une communication à sens unique, une expression de lui-même. Il y a la phase adulte, où on cherche à communiquer dans les deux sens, aller-retour, où on devrait normalement être capable de parler en face, et on cherche le dialogue. C'est la phase de la maturité, et le meilleur aspect de ça, c'est quand on est capable d'arriver au point de trouver la longueur d'onde de l'autre. Dans le domaine de la radiophonie, c'est le poste émetteur qui choisit la longueur d'onde. Radio-Canada choisit 690. Tous les récepteurs doivent, s'ils veulent entendre Radio-Canada, prendre la longueur d'onde du poste émetteur. Dans les relations humaines, la perfection, c'est l'inverse. Le poste émetteur, c'est à lui de chercher la longueur d'onde de chacun des émetteurs, des récepteurs auxquels il s'adresse. Je veux dire ceci, Mais si les récepteurs devant moi ont tel âge, tel problème, telle attitude, telle réaction, si c'est Pierre, si c'est Jean, si c'est Jacques, je cherche à dire la même chose, mais sur des longueurs d'onde que vont pouvoir capter Pierre, Jean et Jean. Bon. La quatrième phase, c'est la phase de l'adulte chrétien. Un chrétien doit évidemment parler aux autres, comme je viens de le dire, avec maturité dans les deux sens, en se tenant compte de la longueur d'onde. Mais pour le chrétien, le langage n'est pas seulement une communication, c'est une communion. Alors, ça suppose quatre points importants. Comme chrétien, je dois pas seulement me soucier de dire vrai. Donc, je ne dois pas avoir seulement un souci d'objectivité dans mes paroles, de voir à ce que mes paroles soient conformes à mes pensées, puis que mes pensées soient conformes aux faits, donc dire la vérité. Je dois, dans ma communication de chrétien, avoir un souci d'intersubjectivité, c'est-à-dire ma communication est l'occasion de tisser un lien, d'unir, de rapprocher, de manifester mon amour. Pour un adulte chrétien, deuxièmement, le langage, qu'il soit verbal, non verbal, les gestes. Je peux ne pas dire un mot, mais par un geste ou une physionomie, je peux en dire beaucoup. Je peux être devant quelqu'un puis qui me parle, puis qui me tombe sur les nerfs, je peux contrôler toutes mes paroles, mais si je suis là, puis je regarde au plafond, puis j'ai l'air à m'embêter, ben c'est non-verbal, mais c'est communicatif quand même. S'il me pose une question, puis je dis pas un mot, puis je contrôle tous mes gestes, puis ma physionomie, j'ai rien à dire. Mon silence peut être également une communication ou un manque de communion. Alors, pour le chrétien, il faut toujours, par nos paroles, fonder et entretenir la communion, la communauté, édifier en soi, dans l'autre et dans le groupe, l'amour. Donc, dire tout, un chrétien en dit pas moins qu'un autre. Un chrétien doit dire tout ce qu'il pense. Il doit le dire bien et mieux que quiconque, pour que l'amour passe à travers ce qu'il dit. Alors, les gens nous disent souvent, ben, comment est-ce que je peux savoir si je dois dire quelque chose ou pas le dire? Ben, c'est ça. Est-ce que l'amour passe à travers ce que tu dis ou ne passe pas? Ça nous oblige à quoi? Ça nous oblige à omettre tout ce qui peut blesser. Tout ce qui humilie, tout ce qui diminue, tout ce qui écrase, tout ce qui éloigne. Et faire en sorte que tout ce qu'on exprime valorise l'autre, grandit, stimule, rapproche, guérit. Alors, si j'ai à dire à quelqu'un, tu as tort de soutenir telle opinion, de faire telle chose. Faut que je le lui dise, convaincu, pour qu'il sache qu'il a tort de dire ou de faire cela, mais que moi, le lui disant, il sente qu'il n'est pas jugé, qu'il n'est pas rejeté, qu'il n'est pas écrasé, qu'il n'est pas humilié, qu'il est aimé. Le courage à parler ou à se taire, c'est donc pas une technique. Les gens nous disent, ben, comment faites-vous pour parler charitablement? C'est pas une technique, c'est une motivation de bien et d'amour. Et quand on met ça sous l'entière gouverne de Dieu, qu'on dit, Seigneur, enseigne-moi à parler en chrétien, si on comprend là, qu'est-ce que c'est que parler en chrétien? Seigneur nous l'enseigne, puis nous rend facile de discerner quand parler ou quand taire, et quand arrêter, et jusqu'où aller, et quand parler, et comment parler, etc., etc. Parce qu'à chaque fois qu'on agit, ou qu'on parle, ou qu'on se tait, ou qu'on écoute, le Seigneur est tellement en nous qu'on ne pourrait pas faire autrement que parler comme lui parlerait, ou se taire comme lui se tairait, ou écouter comme lui écouterait. Une troisième remarque importante, c'est que faut savoir doser ce qu'on a à dire à l'autre. On trouverait criminel une infirmière qui dirait « Ben moi, le médecin a prescrit telle injection, tel médicament en 3 injections, mais pourquoi est-ce qu'il donne ça en 3 fois? Il me semble que moi je prendrais ça tout d'un coup. » Qui déciderait de donner l'injection en une seule fois à la personne. On dose pas l'injection à la personne qui la donne, mais à la personne qui la reçoit. Par conséquent, le chrétien, quand il a à parler, doit être très, très soucieux de savoir s'il faut le dire en 1 fois, en 2 fois ou en 3 fois. Si l'autre est capable de prendre tout le message d'un seul coup, ou en 2 coups, ou en 3 coups, s'il faut lui dire pendant son repas, ou après, ou avant. Moi, je dis souvent aux gens que j'essaye du moins de pratiquer cet amour du prochain dans tous les détails. Je me dis toujours, j'ai pas encore la réponse. Seigneur, es-tu plus charitable de donner une mauvaise nouvelle à quelqu'un avant un repas? Quitte à bloquer son appétit, ou à le dire après le repas, quitte à bloquer sa digestion. Qu'est-ce qui est plus charitable? Je ne le sais pas encore. Mais il faut doser ça à l'autre. Et souvent, c'est là qu'on se fait prendre. On pense à ce qu'on veut dire, là, puis bon, ben, on y pense, qu'on prie, là, puis là, là, bon, Seigneur, accompagne-moi, là, j'ai une grosse chose, une grosse vérité à lui dire, puis tout ça, puis on pense à tout sauf à l'autre. C'est peut-être pas ce jour-là que l'autre est en bonne forme pour recevoir le message. Quelqu'un a peut-être quelque chose sur le brain, puis nous autres, on arrive. Faut penser que c'est la personne qui reçoit notre message, qui est sur la chaise électrique, c'est pas nous autres. J'ai beau être au courant, puis tout préparé, mais quand j'arrive, c'est l'autre qui attrape le plat. Alors, le souci chrétien doit me porter à doser et à adapter ça à l'autre. Quatrième et dernière remarque, c'est que sa réaction à l'autre ne doit pas être pour moi un signe d'échec. On entend souvent des gens qui disent, ben oui, mais moi, je lui parle plus. Ça fait 15 fois que je lui dis, ça donne rien. Ou bien je lui ai dit, il a mal pris ça. Ben ça, si je l'ai dit parce que je croyais que c'était la volonté du Seigneur, je l'ai dit comme le Seigneur l'aurait dit, j'ai dosé ce que j'avais à dire, je lui ai donné ma conscience, ma vie chrétienne est en ordre. La réaction de l'autre peut dépendre de toutes sortes d'autres raisons que je n'ai pas apportées en conscience. Cette personne-là peut être aveuglée, cette personne-là peut être sous l'influence de d'autres, cette personne-là peut délibérément rejeter la lumière, les conseils, m'en vouloir sans raison ou quoi que ce soit. Ça, c'est la conscience de l'autre. Mais je n'ai pas le droit, comme chrétien, quand je crois qu'il y a une vérité à dire, et que le Seigneur me donne l'inspiration de le dire, et la manière de le dire, et m'accompagne au moment où je le dis, de cesser de le faire. Parce que le mauvais riche, c'est pas seulement celui qui refuse de partager son pain, c'est celui qui refuse de partager la lumière que le Seigneur lui donne. Des conseils aux autres, c'est des cadeaux. J'ai pas le droit, quand je crois que j'ai un conseil à donner à quelqu'un, de le garder. Même si j'en ai donné 499 qu'il a mis au panier, il m'en vient un 500e conseil à lui donner. Je dois lui donner. Je dois partager. Parce que le Seigneur peut passer à travers moi pour donner cette lumière-là. Et qui suis-je pour dire, Seigneur, enough is enough. Donne-y en plus de lumière. Et ensuite, il faut penser aux réactions instinctives. Quand, je me rappelle quand j'étais petit scout et puis on allait se promener dans le bois, puis il y en avait toujours un qui avait le droit d'avoir la lumière de poche, puis le reste de la patrouille, on suivait. Et puis souvent, ce qui arrivait, c'est qu'au lieu d'éclairer la piste, là, mais celui qui avait la lumière de poche éclairait les étoiles. Ou bien, il se retournait puis il nous braquait la lumière dans les yeux. Mais quand quelqu'un nous braque la lumière dans les yeux, qu'est-ce qu'on fait instinctivement? On fait ça. Mais quelqu'un qui se fait braquer la lumière dans les yeux puis qui fait ça, là, ça veut-tu dire, j'en veux pas de lumière? Ça veut dire, attends un peu, là. Bon, tout à coup, ses yeux s'ajustent. Alors, quand on dit une vérité à quelqu'un, il y a toujours, normalement, une réaction de dire, non, une espèce de défense, de rejet. Mais c'est pas important que séance tenante, la personne nous dise à deux genoux, merci, t'es bien fin pour tout ce que tu m'as dit, tout ça. Il faut croire que quand on a mis de la lumière avec de la chaleur, il finira toujours par sortir quelque chose de terre. Et que c'est souvent après notre départ, puis après la conversation, que tout à coup, la lumière, avec la grâce du Seigneur, parce qu'elle a été transmise avec la charité du Seigneur, se met tout à coup à germer et à pousser. Alors voilà, mes chers amis, quelques réflexions. La vérité et la charité donnent une thérapie certaine avec le temps nécessaire. Je pourrais terminer par vous donner un exemple concret. Cette année, l'année dernière, j'avais été invité à bénir un mariage d'un jeune couple. Et je sentais que dans le milieu, tout le monde discutait ça. Les parents disaient, tu te valais, ils sont fiancés, ça va être un échec, c'est un mariage, ça va pas réussir, puis lui écrase elle, puis si, puis etc. Puis tout le monde critiquait. Mais je disais aux parents, voyez vos enfants concernés, puis dites-leur qu'ils s'en vont vers un échec, je ne suis pas intéressé, moi, à aller bénir un divorce. Puis personne ne parlait, tout le monde critiquait. Puis tout le monde disait, regardez bien, ça ne restera pas 6 mois ensemble, 1 mois ensemble. Alors, à un moment donné, en priant, moi, j'ai senti, le Seigneur me demandait d'avoir le courage de leur dire la vérité. Alors, est-ce que je devais les voir individuellement? J'ai exclu ça, parce qu'après ça, j'ai dit, ils vont se raconter ça à leur manière. Est-ce que je dois les voir et leur parler directement tous les deux? Non, la dynamique de groupe va faire que un des deux va dominer l'autre et puis il n'y aura pas de communication. Est-ce que je vais leur écrire une épître à Matthieu? Non. C'était trop long, j'avais pas le goût d'écrire ça. Alors, j'ai décidé de me mettre devant une machine à cassette et de faire une conversation avec les deux. Puis je leur dis au début, écoutez, après avoir prié puis réfléchi, je vais vous donner le plus beau cadeau de votre vie, la vérité avec charité. Actuellement, toutes les chances de succès de votre mariage sont contre vous. Vous me demandez de le bénir. Mais entre la joie et le bonheur de bénir votre mariage et la joie et le devoir de vous dire certaines vérités avec charité, j'opte pour ça et je décline d'être le prêtre qui bénit votre mariage, mais je m'offre pour être votre ami puis vous dire 6 mois avant votre mariage les choses qui peuvent vous aider. J'ai prié, j'avais un plan, j'avais une quinzaine de remarques, de réflexions, ça s'est fait. Et je voulais faire une cassette, ça a fini par 3 cassettes. Jase, parle. Et puis les 3 cassettes finies, je les ai mises près du tabernacle, puis le Seigneur donne-leur une onction spéciale. J'accepte Seigneur, parce que c'était toute une analyse. J'ai dit, j'accepte Seigneur l'explosion, le rejet, mais je crois à la puissance de la vérité de ton amour comme thérapie de ce couple. J'ai envoyé les cassettes 2 mois et demi avant leur mariage. Comme de fait, le tonnerre a tombé. sur moi. Et puis, ça n'a pas été qu'une petite affaire de quoi ce qui se mêle, puis de ci, puis ça. Et puis, des gens ont écouté des extraits sortis du contexte. Alors, j'ai eu la famille qui... les deux familles, une qui m'a laissé entendre que c'était peut-être pas la meilleure affaire à faire, puis l'autre famille qui m'a dit que c'était épouvantable d'avoir fait ça, et puis, etc., etc. Je dis, Seigneur, pour toi, je reste en paix. Ils sont mariés, moins d'un mois après le mariage, le jeune couple est venu me voir, s'est jeté dans mes bras. Ils m'ont dit que le cadeau de noces le plus beau qu'ils avaient reçu était celui-là. Ils m'ont demandé de devenir leur directeur spirituel. Ils m'ont dit à ce moment-là, 13 des 15 conseils nous ont touchés, on se sent transformés. Un des deux a demandé l'effusion de l'esprit, et dans le Seigneur, veux-tu tenter plus? L'autre est sur le chemin de la même chose. Ils viennent me conseiller, me dire, on ne saura jamais vivre assez longtemps pour vous remercier de nous avoir transmis la lumière avec chaleur. Et je suis déjà demandé pour baptiser les futurs enfants, etc., etc. Moins d'un mois après le mariage, mais 3 mois et demi après l'envoi de mes cassettes, j'avais pris presque 2 mois à penser et à prier. Ça fait un bon laps de temps. Mais, pourquoi pas? Alors que tout le monde aurait pu laisser faire la situation, moi j'aurais pu m'en laver les mains puis aller bénir un mariage, et puis 6 mois, 1 an après, ça aurait fait une catastrophe, puis tout le monde aurait fait arriver, puis dire, on le savait bien, on était au courant, on prévoyait ça, comment ça se fait que vous ne le voyez pas, etc., etc. Mais personne ne voulait parler. Personne ne voulait parler. Alors, je vous laisse là-dessus. Demandons au Seigneur, donc, comme fruit de cet enseignement, de vraiment nous montrer qu'être chrétien, c'est d'avoir du courage, de la force, mais surtout la force de transmettre ce qui semble être sa volonté dans la vérité et avec charité. Amen. Alléluia.